Il y a 1600 ans, à travers cette galerie passe un groupe de chrétiens. Ils portent le corps d'un jeune martyr qui, sous la terrible persécution de Dioclétien, a préféré donner sa vie plutôt que trahir sa foi. Les lieux sont connus et vénérés de tous. Sur les murs, on peut encore voir de vieux graffitis avec des invocations aux apôtres Pierre et Paul. Le martyr appelé Sébastien est déposé là, dans une crypte. Ici, durant des siècles, des millions de chrétiens ont prié, venus de tous les pays du monde. Au-dessus du cimetière souterrain se dresse une immense basilique. Voici ce que raconte un auteur du 5e siècle sur la vie et le martyre de Saint Sébastien. Reportons-nous 1600 ans en arrière, à Rome. Ce jour-là, un homme s'approche du centurion de garde.
Je veux parler au tribun Sébastien.
Attendez, citoyen. Il va entrer bientôt avec la première cohorte. Le tribun vous connaît-il?
Je l'ai rencontré plusieurs fois, centurion.
Mais je viens à propos d'une affaire qui le regarde. La persécution contre les chrétiens avait éclaté voici 3 ans. Et depuis, pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle victime tombe. Or, Sébastien, chef des gardes du corps de l'empereur, était chrétien. Pendant que Sébastien montait à cheval, le centurion de garde lui transmit le message.
Au corps de garde, il y a un homme qui veut vous voir, tribun Sébastien.
Qui est-ce?
Je ne le connais pas, mais il vous demande.
Sans trahir la moindre émotion, Sébastien regarda le vieux prêtre Lucien, qu'il connaissait très bien. Lucien prit la parole. Cette nuit, on a arrêté les deux frères Marc et Marcelin.
Je sais, père, mais j'ignore où on les a mis.
Eh bien, je peux vous le dire, Sébastien. On les a enfermés dans le palais de Nicostrate, sous sa responsabilité. Sébastien répondit qu'il ne savait pas où se trouvait ce palais.
Demain, mon fils, quand vous sortirez du palais, vous trouverez un enfant jouant devant une fontaine. Suivez-le. Il vous y conduira.
Pendant ce temps, le centurion était resté sur le pas de la porte. Quand Sébastien le vit, il prit un ton officiel.
Je ferai ce que je pourrai auprès de l'empereur, citoyen, mais je ne vous garantis de rien.
Sébastien était un noble originaire de Narbonne, en Gaule. Il était né à Milan, devenu en ces années-là capitale d'une partie de l'Empire. Il avait suivi une carrière militaire et avait été nommé directement dans les gardes du corps de l'empereur. Il devint vite commandant. Or, il s'était converti au christianisme. Sa position le mettait continuellement dans le danger d'être découvert. Et il voulut souvent abandonner son poste, mais le pape l'avait prié de rester, Il était trop précieux où il se trouvait. Il vivait au palais même de l'empereur et en contact continuel avec lui. Le lendemain, effectivement, Sébastien trouva un enfant qui jouait devant la fontaine. Il le suivit. Il arriva au palais de Nicostrate.
Qui est-ce ?
Le tribun Sébastien, commandant des gardes du corps de l'empereur. Je veux vous parler, ouvrez.
Me parler à moi, Nicostrate ? J'ouvre tout de suite, tribun.
Nicostrate ouvrit la porte, pendant que l'enfant s'en allait en courant.
Je veux voir les prisonniers, Nicostrate.
Quel prisonnier, tribun Sébastien ? Je n'en ai pas. Je veux voir Marc et Marcelin, Nicostrate. Ce sont mes amis. Conduis-moi vite.
Nicostrate ajouta, surpris.
J'ai des ordres très sévères de ne laisser entrer personne, tribun Sébastien.
Sébastien répondit.
Savez-vous ce que signifie commandant des gardes du corps de l'empereur ?
Le tribun Sébastien, à partir de ce jour, ne manquait pas d'aller visiter souvent les deux frères, Marc et Marcelin. Nicostrate avait compris que le tribun était chrétien. Il commença à avoir peur, mais il n'en parla à personne. Un jour que Sébastien restait à parler avec les deux frères, Marc et Marcelin, comme d'habitude, jusqu'à l'heure du souper, Zoé, l'épouse de Nicostrate, descendit apporter le repas aux prisonniers. Le tribun payait bien, alors pourquoi les maltraiter ? Zoé les servit en silence, car Zoé était sourde et muette. Et c'était là une grande souffrance pour Nicostrate. Un jour, il s'en ouvrit à Sébastien.
Sébastien, j'ai souvent entendu dire que les chrétiens étaient experts en magie.
Dieu fait des choses merveilleuses, Nicostrate, mais ce n'est pas de la magie.
Alors, tribun Sébastien, pourquoi n'en ferait-il pas une pour moi ? Qu'il fasse parler mon épouse Zoé. Au fond, je risque ma place et même ma vie à favoriser les chrétiens.
Personne ne peut savoir quelle est la volonté de Dieu, Nicostrate. Mais nous pouvons le prier pour ton épouse. Viens te joindre à nous. Et à partir de ce moment, Zoé se mit à parler. Nicostrate et son épouse voulurent être instruits de la religion chrétienne. La veille de l'exécution, Sébastien était venu les trouver une dernière fois. Comme il sortait de la prison, il se trouva nez à nez avec une patrouille militaire qui faisait une ronde. Quand ils virent que c'était le tribun Sébastien, commandant des gardes du corps de l'empereur, ils le laissèrent passer. Mais un doute commença à germer dans l'esprit du chef de patrouille. Il alla trouver l'empereur.
Seigneur, je l'ai vu sortir d'une prison où il n'aurait pas dû entrer. Et je viens vous en rendre compte. Je ne peux l'arrêter pour cela. Nous avons interrogé Nicostrate. Il nous a dit qu'il ne pouvait empêcher un tel personnage d'entrer dans la prison. Mais lui aussi est chrétien. Il l'a avoué.
Bien. Bien, bien. N'en parlez à personne et attendez ma décision. Quand ce matin-là, l'empereur siégea dans la grande salle du conseil pour faire justice lui-même, Sébastien, comme toujours, prit place auprès de lui. L'interrogatoire fut très bref. Les deux accusés confessèrent la religion chrétienne. La loi était claire, ils seraient condamnés à mort. L'empereur se tourna alors vers Sébastien.
Tribun Sébastien, avancez. D'après vous, que devons-nous faire des accusés?
Ce sont des gens simples, César. Que peut craindre l'Empire?
L'Empire doit tout craindre de ceux qui ne veulent pas se soumettre à ses lois, tribun Sébastien.
Ce n'est pas à moi de les condamner, César, mais à vous.
Partageriez-vous aussi leur religion?
Pourquoi vous le cachez, César, puisque d'autres vous l'ont dit? Ce soir-là, Sébastien fut enfermé dans le corps de garde.
Le lendemain, il comparut devant l'empereur. Empereur, je n'ai jamais manqué à mon devoir envers l'Empire et envers votre personne. Mais il y a une partie de moi-même que je ne peux vous donner, c'est ma conscience. Je ne veux pas de votre conscience, tribun Sébastien. Je ne vous empêche pas de croire à l'intérieur de vous-même. Mais faites publiquement acte de soumission au dieu de l'Empire.
Et Sébastien répondit,
Jésus a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant le Père au jour du jugement. L'empereur furieux s'écria, tu sais que je peux te faire souffrir et mourir, tribun Sébastien.
J'ai promis de défendre votre vie, empereur, au prix de mon sang. Craindrais-je de verser ce sang pour mon Dieu? Seriez-vous au-dessus de lui? Eh bien, mourez.
Soldats, emparez-vous de lui, et qu'il soit mis à mort au milieu des plus atroces souffrances.
Le matin suivant, on l'amena dans la cour de la caserne de Sagittari Numidi, car l'empereur ne se fiait pas à ses propres soldats pour le mettre à mort, tant il était populaire. Le centurion, selon l'ordre même de l'empereur, lui reparla encore une dernière fois des promesses que celui-ci lui avait fait la veille.
Ne m'en parlez plus, centurion. Tribun Sébastien, je resterai ici, dans la salle de garde, car je ne veux pas voir mourir mon commandant. Si vous reveniez sur vos paroles, tribun Sébastien, je serai là pour vous libérer. Un médecin vous soignera tout de suite.
Où dois-je me mettre, centurion? Il fut attaché à un poteau. Le centurion fit signe à son chef, Numidi, que tout était prêt. Les archers tendirent l'arc et visèrent leur cible. Quand la première flèche partit, le centurion avait déjà quitté la cour. Quand tout fut fini, le chef Numidi s'approcha du centurion.
Voilà, c'est terminé, centurion.
Il est mort?
Pas encore. Il suffit de le laisser perdre tout son sang, il finira bien par mourir.
À moins qu'on ne l'achève d'une flèche en plein cœur, centurion. Mais l'ordre de le faire souffrir. Et le centurion fut pris de pitié. Or, il y avait là, sous le portique, une dame qui attendait. Le centurion la reconnut tout de suite.
Madame, vous ici, et à cette heure?
La dame, qui s'appelait Irène, s'approcha de lui.
Laissez-moi le corps de Sébastien, centurion.
Le centurion n'avait aucun ordre précis à ce sujet. Aussi se décida-t-il d'agir sur sa propre initiative. Un soldat coupa rapidement les liens qui attachaient Sébastien au poteau et le centurion remit le corps de Sébastien à la dame. Arrivé à la maison de la dame, on commença par laver le corps couvert de sang. On allait l'embaumer pour le mettre dans un sarcophage quand...
Mais il vit.
En effet, on sentait encore son cœur battre faiblement. Il fallait le guérir et le cacher en attendant des jours meilleurs. Il suffit de quelques semaines pour remettre sur pied notre tribun Sébastien. Mais guéri, il fit part d'une décision qui était tout autre que celle qu'avait pensée Irène. Je ne veux pas me cacher, Irène. Je veux encore remplir une grande mission, être la voix de Dieu auprès de l'empereur. Je suis sûr que c'est pour cela que Dieu a permis que je vive quelques jours de plus. Ni Irène, ni le docteur réussirent à le dissuader de sa résolution. Ce matin-là, l'empereur Dioclétien siégeait comme d'habitude dans la grande salle du palais pour faire la justice lui-même. On lui amena un jeune chrétien arrêté le jour d'avant. Le nouveau tribun se trouvait près de lui à la place que tenait avant Sébastien. Le jeune homme confessa avec fierté être chrétien et la sentence tomba vite. Mais pendant que la condamnation à mort était prononcée, par une porte latérale, un personnage pâle et émacié entra, puis s'avança le doigt pointé vers l'empereur. C'était Sébastien. Jusqu'à quand cette parole de mort résonnera dans cette salle contre des innocents, empereur ?
Vous ?
S'écria l'empereur.
Êtes-vous un spectre ?
Je suis la voix de Dieu, empereur. Il faut en finir avec ce massacre. Laisse-les libres de pratiquer leur religion, car il te reste peu de temps à vivre. Le nouveau tribun qui était auprès de l'empereur s'approcha de Sébastien et lui agrippa le bras. Quand il vit que ce n'était pas un spectre, il s'écria,
« Mais ce n'est pas un spectre, c'est un homme en chair et en os. »
Maintenant, sur le visage de l'empereur, on ne lisait plus la crainte, mais la colère.
« Tu es encore en vie. Malheur à ceux qui n'ont pas suivi mes ordres. Qu'ils soient fouettés à mort devant mes yeux. »
Les bourreaux n'eurent pas de mal à en venir à bout. Car Sébastien, encore faible par le sang perdu précédemment, tomba bien vite. Avant de le frapper une dernière fois, le regard des bourreaux chercha celui de l'empereur pour y lire la pitié. Mais Dioclétien fit un signe, et le fouet s'abattit inexorable. Le corps du Saint-Martyr, ramené de nuit, fut enseveli à l'extérieur de la ville, le long de la voie Appia Antiqua, près d'une cave appelée Catacombe. Le nom de cette cave deviendra celui par lequel on désigne aujourd'hui les cimetières souterrains de Rome, les Catacombes.
Rome, la Rome impériale. L'empereur Marc Aurèle vient de succéder à Antonien le Pieux. Temps difficile pour l'Empire romain. De toutes parts, infiltration de barbares. Désordre, famine, calamité de tout genre. Et à Rome, la peste. C'est un châtiment des dieux. À mort les chrétiens. Les temps de paix sont terminés pour les chrétiens. Voici venir de nouveau la persécution. Or, à cette époque, vivait à Rome Cécilia, dernière descendante de l'illustre famille des Céciliens. Très belle et très douce, elle conservait toujours, dans son caractère, la force de ses ancêtres guerriers. En cette époque de corruption de tout le patriciat romain, Cécilia avait consacré à Dieu la perle la plus belle de son âme, la virginité. Comme récompense à sa pureté et à ses sacrifices, Dieu lui donna la possibilité de voir son ange gardien et de lui parler. Merci, mon Dieu, qui m'avait donné cette consolation sur terre, de voir le visage de mon ange gardien. Mais Cécilia est désormais en âge de se marier. Son père s'adresse à Valérien, un homme très droit. Oui, Valérien, je connais votre âme, noble et bonne. Ma fille Cécilia sera votre épouse. Merci, Numidico. J'aime Cécilia. Je la rendrai heureuse, je vous le promets. Mon Seigneur et mon Dieu, vous connaissez les projets de mon père et des moi. Je suis votre Jésus, et je ne veux appartenir à personne d'autre qu'à vous. C'est le jour des noces. À travers les jardins, escortés des cris et des rires, et des invités, voici Cécilia. Il n'y a pas de fille comme elle dans tout l'Empire. Valérien ne peut trouver meilleure épouse. Il fait nuit. De la maison des Céciliens, le long du Véter, le cortège nuptial, fantastiquement illuminé, accompagne Cécilia à la maison de l'époux. Selon le rituel, Valérien fait sa solennelle déclaration. Moi, Valérien, je romps le pain, symbole de notre union, et je t'en donne une part, Cécilia, ma future épouse. Mais Cécilia pense à notre pain, offert à notre époux, son époux divin. Du seuil de sa maison, Valérien reçoit enfin celle qui deviendra la maîtresse de maison, la matrone. Le grand triclinium de la cour de la maison est décoré d'une façon splendide. La musique prélude, une joie frénétique, s'empare de tous les convives. Mais la pensée de Cécilia est ailleurs, au milieu des bruits de la fête. Que mon cœur reste pur, ô mon Dieu, afin qu'il ne soit pas confondu. Valérien remarque l'étrange absence de son épouse. Cécilia, durant la fête, j'ai vu sur ton visage quelque chose d'étrangement beau, de mystérieux. Oui, Valérien, j'ai un secret. Je peux te le dire, mais promets de ne pas le dévoiler. Je le jure, Cécilia. Eh bien, voilà, je parlais avec un ange.
Un ange ?
Oui, j'ai pour compagnon un ange de Dieu, qui veille sur moi et me garde jalousement. Si tu n'y prends garde, et si tu ne me respectes pas, sa colère retombera sur toi. Mais s'il voit que ton cœur est pur, il t'aimera comme il m'aime. Dis-moi, Cécilia, puis-je voir moi aussi ton ange? si tu crois en mon Dieu, et si tu es purifié par l'eau du baptême, je veux le voir, Cécilia. Dis-moi ce qu'il faut faire. Va sur la voie Appia, à la troisième borne, quelqu'un te demandera « Que cherchez-vous ?» Tu répondras « La croix ». Cette même nuit, Valérien se rend dans les lieux secrets où se réunissent les chrétiens. Quand il a prononcé le nom de Cécilia, on l'introduit dans une immense cimetière souterrain qu'on appelle les catacombes. Le long des couloirs humides et noirs, quelques lampes discrètes illuminent le chemin étroit et tortueux. Mes frères, de grandes épreuves nous attendent. Notre Seigneur nous demande de nouveau à témoigner pour lui jusqu'au sang. C'est Urbain qui parle. Urbain, l'évêque de Rome, est l'un des premiers papes de la chrétienté. Valérien écoute ce vieillard austère et paternel qui parle avec sérénité de persécution et de mort imminente. Cet homme pourra certainement l'aider et le conduire jusqu'à la foi de Cécilia. Tu vois, mon fils, ton amour pour Cécilia est grand et noble. Mais tu dois le purifier. Tu ne dois pas aimer ce que la mort corrompt et le tombeau transforme en poussière. Tu dois aimer de Cécilia ce qui restera d'elle éternellement. Vos paroles sont encore obscures pour moi, maître, mais je veux embrasser la foi de Cécilia. C'est pour cela que je suis venu. Alors il vous faut croire qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, Père Tout-Puissant, qui régit et gouverne tout et qui sera un jour juge suprême et infaillible, et qui donnera une récompense éternelle aux justes et un châtiment éternel aux méchants. Croyez-vous cela, Valérien ? Je crois. Rien n'est pour moi plus certain que ce que vous venez de dire. Valérien, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revêtez cette tunique. Elle est le symbole de votre âme maintenant rachetée. Sachez la conserver intacte et pure jusqu'à ce que le Christ vienne vous la demander au jugement dernier. Vêtu ainsi de la blanche tunique des néophytes, Valérien sort des catacombes. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Son âme est pleine d'une grande joie et d'une grande paix. Il n'a maintenant qu'un seul désir, être plus vite près de Cécilia. Tremblant d'émotion, il entre dans la chambre nuptiale. Il y découvre Cécilia en prière. Un ange entouré de lumière veille sur elle. Il l'aperçoit enfin, comme le lui avait promis Cécilia. Les deux époux s'entretiennent longuement des événements de la nuit quand survient Tiburce, le frère de Valérien. Tiburce, mon frère, approche. Pourquoi nous regardes-tu si bouleversé? C'est votre aspect, mon frère. En entrant, je vous ai vu environnés tous les deux d'une lumière étrange. C'est la lumière du Christ, Tiburce. Pendant ce temps, à Rome, la persécution éclate terrible. Les martyrs tombent par centaines. Le préfet Almacus a interdit d'enterrer les chrétiens exécutés. Mais un traitement aussi inhumain n'entame pas le courage de Cécilia et de Valérien et de Tiburce qui les a rejoints dans la foi. La nuit, à la lumière d'une petite lampe, ils descendent dans l'arène et ils recueillent précieusement les reliques des chrétiens morts martyrs pour le Christ afin de les transporter dans les catacombes. Mais quelqu'un les a vus et les a dénoncés. Arrêtés, ils comparaissent devant le préfet de Rome. Vous pouvez encore vous sauver. Renoncez à votre Dieu et honorez les dieux de nos pères, les dieux de Rome. Nous sommes chrétiens. Les dieux de Rome sont de faux dieux. Bien, puisqu'il en est ainsi, que le chancelier Maxime fasse de vous ce qu'il voudra. Allons, courage, Maxime. L'aube est désormais proche pour nous. Accomplis ton devoir. La mort ne nous fait pas peur. Si tu ne nous mets pas à mort, le préfet Almacius te tuera. Non, non, je ne peux pas aujourd'hui. Demain, je déciderai. La dernière nuit fut pleine de conversations sur Dieu et sur le ciel. Il est écrit qu'il nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni les dangers, ni les persécutions, ni l'épée, ni la mort. Mais au milieu de toutes ces tribulations, nous ne sommes pas vaincus, mais vainqueurs, grâce au Christ qui nous aime. L'épée du bourreau siffle dans l'air et s'abat. Seigneur, entre vos mains, je remets mon esprit. Cette même nuit, Cécilia compose des chants à l'honneur des deux martyrs au cimetière de Prétesta. Deux jours après, dans un lieu voisin, elle composera le chant d'un autre martyr, le chancelier Maxime, qui s'est converti à la vraie foi, bouleversé par le courage des jeunes Valérien et Tiburce devant la mort. Il avait demandé et obtenu le baptême. Le préfet Almacius maintenant appelle Cécilia. Cécilia, sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Je l'imagine, préfet Almacius. Adores-tu nos dieux romains? Je n'adore que l'unique vrai Dieu qui est au ciel. Le Dieu des chrétiens? Oui, ce Dieu qui envoya sur la terre son Fils unique, Jésus, pour nous sauver. Ces paroles te conduiront à la mort, Cécilia. Vous vous trompez, Almacius. Ces paroles vont m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Le préfet Almacius, par crainte que l'exécution publique de Cécilia ne fasse éclater des révoltés parmi la foule des pauvres et des malheureux dont elle était la bienfaitrice, ordonna qu'on l'enferma dans le calidarium, une salle où, pour le dégagement des vapeurs chaudes, on réussissait à étouffer sa victime. Mais Cécilia, comme les jeunes Hébreux dans la fournaise de Babylone, chantait les louanges à Dieu au milieu de la fumée âcre et suffocante. Loué soit mon Dieu et mon Seigneur qui êtes dans le ciel. Que votre règne arrive. Almacius est furieux d'apprendre que Cécilia vit encore. Il ordonne de la décapiter. Mais préfet Almacius, nous lui avons déjà envoyé 3 coups d'épée et elle vit encore. Vous savez que la loi romaine interdit de lui envoyer un 4e coup d'épée. En effet, on n'arrive pas à venir à bout de Cécilia. La nouvelle incroyable se répand comme une traînée de poudre chez les chrétiens de la ville. Durant l'agonie de Cécilia, qui durera 3 jours, c'est un pèlerinage continuel de chrétiens qui se rendent à sa maison pour la voir. Aux faibles terrifiés par la persécution, aux forts sûrs de mourir, pour chacun, elle trouve une parole de réconfort pendant que son sang s'égoutte peu à peu de ses plaies béantes. Urbain, le vieil évêque de Rome qui a baptisé Valérien, vient la voir. Cécilia, je suis là près de toi. Tu me reconnais, Urbain, ton évêque. Ô mon père, donnez tous les biens qui me restent aux pauvres et faites de ma maison un temple consacré à Dieu. Au revoir, Père, au ciel. Notre sœur Cécile vient de quitter la terre. Va, blanche colombe, pars vers le ciel, rejoins l'âme de Valérien et de Tiburce près du trône de l'agneau. Cette nuit-là, on déposa le corps de Sainte Cécile dans un nouveau cimetière qui depuis portera un nom, le cimetière de Sainte Cécile. Une plaque de marbre recouvre sa tombe. Les années passent. Le corps de l'illustre martyr sera porté dans l'église du Trastevere en l'an 800. 700 ans plus tard, en 1591, le pape de l'époque, Clément VII, ouvre le tombeau pour que les fidèles puissent vénérer les reliques de la sainte. Le cardinal Baryonius était là. Il écrira dans ses annales « Je vis le coffre en cyprès qui contenait son corps virginal. Nous nous penchâmes pour regarder la sainte dépouille. Nous la trouvâmes dans la même position qu'on l'avait trouvée en l'an 800 et qui fut consignée à l'époque par écrit. » Dans la Passion de Sainte Cécile, on peut lire « Pendant que les instruments de musique retentissaient, la Vierge Cécilia chantait à Dieu dans son cœur. Fiat cor meum immaculatum ou non confundar. Faisons nôtre le chant de pureté que chantait Cécilia. Que mon cœur reste pur afin que je ne sois pas confondu. »